vous suit.
Voici les titres de ce journal.
En basket, les formations de la région font face aux mêmes difficultés. Après Montet, le Vevey-Riviera Basket n'a lui aussi pas reçu sa licence en raison d'une instabilité financière. Point de situation dans ce journal. Les sapeurs-pompiers vaudois utiliseront un nouveau système dès septembre. Les appels d'urgence au 118 pourront être complétés par de la vidéo en direct grâce à un lien SMS. L'autoroute A9 entre Bay et Saint-Maurice était fermée la nuit dernière. Des investigations du pont du Rhône ont été effectuées, un contrôle habituel mais nécessaire en vue de l'assainissement de l'ouvrage. Et les Jeux Olympiques de Paris vont s'ouvrir dans quelques heures. La cérémonie d'ouverture sur la Seine démarrera à 19h30 ce soir. La délégation suisse aura pour porte-drapeau le vététiste Nino Schurter et la tireuse sportive Nina Christen.
Un seul mot pour la météo, soleil. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal guidé par Valérie Favre, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à tous. La situation du Vevey-Riviera Basket est préoccupante alors que le BBC Montéchablais a annoncé être aussi en difficulté. Le club vaudois n'a toujours pas reçu sa licence pour évoluer en SB League la saison prochaine. Un travail de l'ombre est actuellement réalisé par le comité afin d'obtenir les garanties financières en vue du prochain exercice. Si aucun chiffre n'est avancé, la situation semble se répéter d'année en année pour le VRB et ce malgré les nombreux compromis qui ont été entrepris. Des compromis qui sont détaillés par Nathan Zana, président du Vevey-Riviera Basket.
Nous, on a énormément réduit au niveau de la masse salariale cette année de nouveau. On avait 3 entraîneurs avec un entraîneur de moins, avec plus d'applications, donc des bénévoles, plus d'applications du comité. On a recruté M. Lucas Ravenel, hein, qui était un ancien joueur du club et qui va nous aider avec la restructuration et surtout de l'élite. Hein. Et de la Ligue B et la Liga. On a fait monter énormément des jeunes joueurs des U18 pour qu'ils jouent en Ligue B et en Liga, dans la première et la deuxième équipe. Voilà, on espère vraiment un jour qu'on pourra professionnaliser les baskets au niveau financier. En Suisse, c'est ça le plus important, et au niveau des infrastructures.
Reste qu'il s'agit d'un travail de l'ombre. En effet, peu d'informations ont été transmises via les canaux du club. Quand Montet a présenté un effectif complet pour le prochain exercice, le VRB n'a donné aucune précision à ce sujet. Si bien que certains fans s'interrogent sur la situation de leur club. Réponse de Nathan Zana.
Alors nous, de toute façon, on a pris une politique au niveau de la communication qui est tant que tout n'est pas fait avec la fédération, parce qu'on a un travail assez important qu'on doit en fait fournir à la commission des licences et puis à la fédération. Tant que tout n'est pas fait, que tout n'est pas réglé, on communique très peu. Et en fait, l'idée, c'est communiquer dès que tout est établi et que tout est en règle au niveau des institutions, de communiquer vraiment l'équipe en complet, d'expliquer ce qu'on a fait, les choix qu'on a fait, les joueurs qu'on a signés et puis les modifications qu'on a fait par rapport à la saison qui vient de passer. C'est pour ça que je préfère communiquer quand tous les feux verts de la fédération et des institutions.
Sans licence délivrée, le VRB se prépare néanmoins pour la saison prochaine. Le mouvement jeunesse sera fortement mis à contribution pour garnir les deux premières équipes qui militent en SB League et en Ligue B masculine. Un voire deux renforts étrangers sont également attendus d'ici le début du mois prochain. Un sujet signé Ludovic Turin.
Les pompiers vaudois pourront utiliser dès septembre la vidéo en direct afin d'améliorer leurs interventions sur le terrain.
À la suite d'un appel au 118, les témoins sur place reçoivent un lien par SMS qui leur permet de partager une localisation ainsi que des images en temps réel de l'incident. Un chat multilingue aidera le centre d'appel d'urgence à communiquer dans une langue étrangère. Ces informations supplémentaires permettront aux soldats du feu de mieux comprendre la situation et d'agir plus efficacement. Christophe Huette, responsable du centre d'alarme de l'établissement cantonal d'assurance incendie de Lausanne.
Dans les incendies de grande ampleur, ça serait vraiment intéressant d'utiliser pour se rendre compte d'un éventuel développement de cet incendie. Ça peut être fortement utilisé dans tout ce qui est incendie d'espace naturel ou de forêt. Mais pas seulement, on y voit une utilité dans toute intervention type chimique, par exemple, avec de déversements de produits sur lesquels on ne pourrait pas s'approcher. Mais par contre, on pourrait filmer à distance ces produits-là avec éventuellement les numéros. Ça serait des informations primordiales pour nous pour pouvoir bien engager les secours.
La technologie est en phase de test depuis un mois sur le terrain et devrait être déployée à la fin de l'été. Un sujet d'Anthony Dacampo.
L'autoroute A9 entre Bay et Saint-Maurice était fermée cette nuit.
La raison de cette fermeture, un test grandeur nature de nouvelles barrières motorisées dans le tunnel d'Arzilliers. Ces dernières ont été endommagées à la suite d'un accident et nécessité une réparation. Des travaux d'investigation sur le pont du Rhône ont également été entrepris sur les deux chaussées afin de vérifier l'état du béton et des piliers. Explication de Lucas Studer, porte-parole de la division infrastructure de l'Office fédéral des routes.
On prend des carottages des chaussées, donc on fait des petits forages pour analyser l'état des chaussées, du béton, etc. Donc après, on a bien sûr beaucoup de travaux dans le bureau pour analyser l'état et planifier les travaux. Et si c'est nécessaire, on doit encore faire une autre fermeture. Mais bien sûr que maintenant, on essaye de le faire ensemble. S'il y a des travaux d'entretien que maintenant, qu'on peut le faire dans la même nuit, qu'on n'a pas une fermeture extraordinaire. Mais c'est ce projet, c'est planifié dans quelques années encore. Donc ça pourrait être possible, mais au minimum, bien sûr.
Des propos recueillis par Léa Journaux. Le nombre de travailleurs exposés à la chaleur excessive augmente partout, mais c'est en Europe et en Asie centrale qu'il a progressé le plus fortement en 20 ans, révélé hier un rapport de l'Organisation internationale du travail. Au total, 231 millions de travailleurs ont été exposés aux vagues de chaleur en 2020, soit une hausse de 66% par rapport à 2000. Néanmoins, le rapport souligne que 9 travailleurs sur 10 dans le monde ont été exposés à une chaleur excessive en dehors d'une vague de chaleur et que 8 accidents du travail sur 10 dus à une chaleur extrême se sont produits en dehors des vagues de chaleur. Selon l'étude, l'amélioration des mesures de sécurité et de santé pour prévenir les blessures dues à la chaleur excessive sur le lieu de travail pourrait permettre d'économiser jusqu'à 361 milliards de dollars en pertes de revenus et en frais de traitement médical.
La SNCF a annoncé aujourd'hui avoir subi une attaque massive pour paralyser son réseau TGV.
La circulation des TGV sur les axes Atlantique Nord et Est sera très perturbée. Une source proche du dossier a évoqué des actes de sabotage. La SNCF a été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les lignes à grande vitesse LGV Atlantique Nord et Est, a indiqué le groupe ferroviaire dans un communiqué, précisant que des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager les installations. Cette attaque va entraîner des perturbations tout le week-end et affecter 800 000 voyageurs, a affirmé aujourd'hui le PDG de la SNCF. Jean-Pierre Farandou, elle n'a en revanche pas d'impact sur le trafic avec la Suisse selon les CFF. Des murs de flammes poussés par des vents violents dans un décor de cartes postales. L'incendie hors de contrôle qui ravage depuis quelques jours le très prisé parc national de Jasper dans les Rocheuses canadiennes a détruit hier une partie de la ville du même nom, provoquant l'émoi dans le pays. Aucune victime n'est à déplorer. Les 25 000 habitants et touristes présents dans la zone ayant été évacués dans la nuit de lundi à mardi quand le feu a soudain pris de l'ampleur prenant de vitesse les pompiers. Mais dans la ville, les dégâts sont considérables, les autorités parlant de 30 à 50% de la ville détruite. Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes. Les deux porte-drapeaux de la délégation helvétique à la cérémonie d'ouverture des JO des Jeux de Paris sont connus. L'honneur reviendra ce soir au vététiste Nino Schurter et à la tireuse sportive Nina Christen. Triple médaillée aux JO, le Grison avait déjà porté le drapeau suisse en 2016 à Rio lors de la cérémonie de clôture. C'est en revanche une première pour la Nidwaldienne, détentrice de 2 breloques olympiques. Chef de mission de Suisse Olympique, Ralph Stöckli nous explique pourquoi son choix s'est porté sur ces deux athlètes.
C'est jamais facile de faire un choix avec si beaucoup d'athlètes qui ont déjà monté des résultats magnifiques, mais on a plusieurs critères, le choix entre les sports, par exemple le programme. Alors il y a plusieurs athlètes qui commencent leur compétition le 27 déjà, alors c'est pas une option d'aller aux cérémonies d'ouverture, mais je suis convaincu qu'avec Nina Christen et Nino Schurter, nous avons 2 ambassadeurs de sport de performance en Suisse, qui est une honneur pour toute la délégation.
Cette nomination revêt des allures de récompense pour Nino Schurter. Le vététiste Grison avait décroché le bronze en 2008 à Pékin, l'argent en 2012 à Londres et enfin l'or à Rio en 2016. Il nous confie ce que représente pour lui le fait de porter le drapeau suisse Nino Schurter.
C'est un très grand honneur, je me réjouis énormément de cette mission. Ce seront mes 5e jeux et je n'avais jamais été porte-drapeau lors d'une cérémonie d'ouverture. Je l'avais été pour la clôture à Rio en 2016, mais c'est quand même différent. De pouvoir guider toute une délégation avec Nina Kristen vers 2 semaines de compétition, c'est encore une fois un honneur immense et je me réjouis d'arriver à ce soir.
Révélation des Jeux d'été à Tokyo, Nina Kristen avait brillé avec sa carabine. La Litvaldienne avait remporté le bronze à 10 mètres et le titre de championne olympique dans le match aux 3 positions. Sa nomination comme porte-drapeau ce soir peut faire office de surprise pour des raisons pratiques. Nina Kristen sera en lice dimanche matin à Châteauroux à 3h de Paris pour l'épreuve de tir à la carabine à 10 mètres. Mais le planning de la tireuse sportive a été adapté en conséquence. Les explications de Nina Kristen.
Es gibt nicht viele Athleten, die diese Chance erhalten haben, um die Fahne an der Öffnungs.
Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont cette chance de porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Pour moi, c'est un grand honneur et il n'y a pas de problème avec mon planning. Le déroulement des événements a été prévu pour que tout se passe à merveille. Je me suis entraîné ce matin, je pars pour Paris cet après-midi et je reviens tranquillement demain à Châteauroux. J'aurai le temps de m'entraîner à nouveau l'après-midi. Tout marche parfaitement.
Un sujet de nos envoyés spéciaux à Paris, Thierry Nicolet et Damien Piscopiello.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.